DW. Émission spéciale.
Bonjour, il est 7h en temps universel, 8h en Allemagne. En ce 1er janvier, la Deutsche Welle a décidé de mettre tous les petits problèmes et les grands malheurs de côté. À longueur d'année, on vous parle de maladies, de calamités, de guerres, d'injustices, de violences. Alors pour que 2024 commence sous de meilleurs auspices, nous allons dans cette émission parler de choses qui vont bien, de potentiel de l'Afrique, de personnes aussi qui donnent du courage. Bref, il sera question ici d'une Afrique forte et positive, d'une moto électrique, de recherche en intelligence artificielle et d'une burundaise ingénieure qui contredit les clichés, entre autres choses. Sandrine Blanchard à ce micro, bonne et heureuse année 2024, où que vous soyez, qui que vous soyez.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
9 الشمس تشرق علي وعليك. 9 النجم بعيوني بتضوي بعيني.
Et on commence par une nouvelle relativement bonne sur le front économique. Le Fonds monétaire international prévoit un rebond de la croissance en Afrique subsaharienne à 4% en 2024. L'inflation mondiale commence à se tasser, les prix des produits alimentaires devraient donc baisser. Alors certes, l'endettement reste un problème majeur dans de nombreux pays, mais plusieurs États ont réussi à diversifier leur économie, ce qui devrait relancer leur consommation et les investissements. Les pays qui arrivent en tête sur ce plan sont le Rwanda, le Kenya, mais aussi la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Bon, je vous l'accorde, commencer l'année sur des chiffres du FMI, c'est un petit peu sec. Alors pour me rattraper, je vous propose d'écouter maintenant les vœux de plusieurs personnes à qui j'ai demandé ce qui leur donnait de l'espoir pour l'Afrique en 2024. Dans ce premier extrait, parce que vous en entendrez un deuxième un petit peu plus tard, vous entendrez Awaso, militante de la société civile d'Arbinda, une commune rurale de la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso. Ensuite, vous entendrez la voix de François Paluku Kapoutou, chargé de projet au sein de la Caritas à Beni, ville du Nord Kivu dans le nord-est de la RDC. Puis l'eurodéputée écologiste allemande Pierrette Herzberger Fofana, qui est originaire du Mali.
Moi, mes vœux au peuple burkinabé sont vraiment tout d'abord qu'il y ait la paix, la sécurité, la solidarité. L'union fait la force pour que cette année soit meilleure que les années précédentes. Voilà, mes vœux les meilleurs.
Il y a des personnes conscientes quand même qui sont en train de travailler, notamment dans l'humanitaire, où plusieurs bravent les vicissitudes et le risque pour leur protection, pour sauver dans son pays les vies. Ça, c'est une des raisons d'espérer que l'on peut survivre à tout ce malheur qui s'abat sur certaines zones de l'Afrique, parce qu'il y a ceux-là qui sont suffisamment engagés pour sauver les vies.
Qu'est-ce qui me donne l'espoir pour l'Afrique en 2024? C'est sa jeunesse. Sa jeunesse est la grande richesse de l'Afrique. C'est une jeunesse qui a appris maintenant à prendre en main vraiment son destin. Et je crois que c'est aussi notre devoir, en tant que député au Parlement européen, de les écouter d'abord, d'écouter ce qu'ils nous proposent et voir comment on peut ensemble mettre en place peut-être des mesures, des objectifs, des projets. Et quand je pense à l'Afrique, je pense tout spécialement aussi à toutes ces femmes qui sont tellement battantes et qui essaient aussi de faire quelque chose.
Parmi les jeunes pleins d'idées qu'évoquait à l'instant Pierrette Herzberger Fofana, il y a tous ces ingénieurs qui essaient de développer des techniques innovantes. Nicolas Claes Ali, par exemple, est un ingénieur mécanicien. Il vit dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et il a réussi à mettre en circulation une moto électrique qui fonctionne avec des batteries rechargeables. L'inventeur poursuit deux objectifs, à la fois lutter contre la pollution de l'environnement, bien sûr, mais aussi réduire la dépendance au carburant. Notre correspondant sur place, Marcus Loïka, est allé à la rencontre de cet ingénieur, là où Nicolas Claes Ali a monté sa moto écolo.
C'est dans son garage de Bounia que Nicolas Claes Ali a créé cette moto écologique. L'alimentation des motos provient d'une batterie électrique rechargeable. Il n'y a donc pas de moteur et elle possède une autonomie de 250 km. La rechargeable peut se faire par connexion à un panneau solaire ou en se branchant sur les circuits électriques domestiques. L'engin est fait de pièces rassemblées localement. Un premier prototype a été déjà mis en circulation pour une phase pilote et les ambitions sont grandes.
Si vous voyez cette moto, c'est la même qu'on a ici chez nous. L'idée est plus simple, c'est d'aller vers la partie moteur. On a créé une petite caisse pour mettre la batterie. Il faut donc connecter tous les fils avec un contrôleur et la partie derrière, c'est là où on a incorporé le moteur électrique. Il n'y a pas d'entretien à faire sur cette moto. Les pièces qu'il y a, ce sont des plaquettes de frein et les roulements et après les pneus.
Cette innovation de Nicolas Claes Ali vise notamment à lutter contre la pollution atmosphérique, mais aussi sonore, car elle n'émet aucun son.
Le carburant qu'on utilise, ça pollue, ça détruit notre planète. J'ai essayé un peu de passer si on peut faire une moto qui soit électrique. Comme chez nous, il y a beaucoup de soleil, on n'exploite presque pas. Voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce soleil pour que ça puisse faire fonctionner cette moto.
Cette création de Nicolas Claes Ali pourrait permettre à une baisse des coûts de transport en moto dans la ville de Bounia, où la population dépend beaucoup des mototaxis. C'est ce qui explique cet habitat de Bounia.
L'innovation est comme parce que moto.
C'est une bonne innovation. Une moto qui roule sans carburant va nous soulager parce que le prix des courses en ville va diminuer, voire aussi le prix du carburant.
Nicolas Claes Ali est natif de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Il a terminé ses études d'ingénieur mécanicien à l'Institut de Réti, dans le territoire de Djougou, actuel épicentre de l'insécurité en Ituri. Âgé d'une trentaine d'années, il est propriétaire d'une entreprise privée de transport et de logistique avec un garage mécanique baptisé Okapi Logistique qu'il a ouvert en 2018 et qui emploie désormais plus de 35 personnes, dont 10 femmes. Marcus Loïka, à Bounia, pour la Deutsche Welle.
On vient de voir là une invention très concrète, très palpable, puisque le jeune ingénieur de Bounia nous parlait d'une moto. Mais l'un des défis majeurs qui se présente cette année aux Africains et aux Africaines, comme au reste de l'humanité d'ailleurs, en termes d'innovation, c'est l'intelligence artificielle. Le sujet est tellement important que le secrétaire général des Nations Unies a créé fin 2023 un groupe d'experts chargé de réfléchir à la question, en gros, de savoir à quoi peut servir l'IA, dans quel domaine, mais aussi quels peuvent être ses dangers, comment encadrer son utilisation, puisque dans toute son histoire, l'humain n'a jamais renoncé à une nouvelle technique disponible au nom de l'éthique. Nous en parlons dans un instant avec notre invité, mais d'abord, une petite page de pub. Si, si, restez, vous allez voir, ce spot devrait vous intéresser puisqu'il parle de notre chaîne YouTube.
Est-ce que vous savez que 77% des jeunes en Afrique ont moins de 35 ans? J'en fais partie.
Moi aussi.
Moi aussi.
C'est moi.
Et vous aussi, bienvenue sur notre chaîne YouTube, un canal exclusivement dédié à vous, les jeunes d'Afrique.
Sur cette chaîne, aucun sujet n'est interdit.
Le clitoris peut devenir presque aussi gros.
Zéro tabou.
Rap, pour les vieux, c'est synonyme de banditisme.
Quelles sont les nouveautés dans le secteur de la mode?
Comme j'aimais bien les habits depuis mon enfance, je me suis lancé dans la sape.
Sommes-nous un peu trop religieux?
nous lançons le débat.
Le gouvernement n'est même pas capable d'accepter qu'il y a des problèmes.
Pourquoi êtes-vous à la tête du pays si vous ne savez rien faire pour nous?
Nous vous donnons la possibilité de nous parler de vos problèmes.
L'immigration clandestine.
Comment se mettre dans le corps d'une femme et d'autres personnes risquent de me faire du mal.
Des vidéos notamment sur la santé et le bien-être ou encore des vidéos explicatives sur les personnalités qui ont marqué l'Afrique.
Que vous demandez de plus si ce n'est que de vous abonner.
Sur notre chaîne YouTube, DW 77% des sujets santé, bien-être, mais aussi dédiés à l'histoire de l'Afrique, à des héros et des héroïnes du présent aussi, de l'écologie, des sujets tabous que l'on prend sans filtre, et puis aussi de la technologie. Et là, ça nous ramène à ce dont je vous parlais avant le spot. Les Nations Unies ont mis sur pied un groupe d'experts internationaux pour réfléchir à l'intelligence artificielle et à la façon dont peut s'en servir l'humanité. Le groupe d'experts de l'ONU regroupe des scientifiques, des représentants de la société civile et aussi des grandes entreprises comme les GAFA. Le seul représentant de l'Afrique francophone dans ce groupe est avec nous au téléphone. Bonjour Seydina Moussa Ndiaye.
Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous.
Seydina Moussa Ndiaye, deux mots pour vous présenter. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Amadou Kane au Sénégal et donc membre du groupe d'experts choisi par les Nations Unies pour réfléchir à l'utilisation de l'IA. Alors pour commencer, une question basique mais nécessaire, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, c'est une science qui existe depuis très très longtemps, depuis les années 1950. Et qui consiste en fait à faire à l'ordinateur des tâches qui ressemblent aux tâches que ferait l'homme.
Alors, où est-ce qu'elle en est l'Afrique en ce moment en matière de recherche sur l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'il y a des pays qu'on pourrait appeler pionniers en la matière?
D'abord, bon, je parlerai d'une dynamique qui est propulsée au niveau africain depuis quelques années par le CRDI, donc qui est... le Centre de recherche pour le développement international, donc du Canada, donc qui accompagne une communauté qu'on appelle AI Fraudy, donc intelligence artificielle pour le développement, et qui est un gros programme en fait qui permet de booster un peu la recherche au niveau africain avec la création de hubs de recherche. La création d'une communauté qui permet d'échanger et puis de travailler ensemble en fait sur des problématiques, notamment des problématiques liées à l'agriculture, donc l'intelligence artificielle pour régler les problèmes agricoles, aux politiques publiques de l'intelligence artificielle parce que c'est très important, d'autres problématiques comme la prise en compte du genre dans l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a pas mal de travaux qui se font de plus en plus. Et c'est vrai que des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte sont bien avancés en termes quoi de recherche, mais il y a d'autres pays comme le Kenya qui essaient également de faire pas mal de choses.
Au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois des start-up qui se créent et qui récoltent des données qui ensuite alimentent les logiciels de grands groupes multinationaux pour développer, donc les améliorer. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce travail? Comment ça se passe?
C'est vrai que depuis quelques années, on a un certain nombre d'appels à candidature qui se font par certains fonds, donc qui financent des projets de collecte de données. D'une part, ça amène l'intérêt sur le fait de pouvoir gérer nos propres données et de les produire, parce qu'on a un manque vraiment de politique de données au niveau africain, avec des stratégies qui sont bien claires de collecte de données, de transformation, de stockage, etc. Donc ça, ce genre de projet permet d'interpeller les chercheurs et les startups et de les amener à mettre en place des dispositifs qui permettent quoi de collecter les données. Par contre, le côté un peu négatif, c'est que ces données en fait sont collectées pour être transmises soit en open, c'est-à-dire directement disponible pour tous. Ça peut être bien, mais ça fait que on perd un peu le monopole de l'exploitation de ces données, qui peut être quelque chose de très stratégique pour des startups. Mais parfois aussi, même ces données, on perd la propriété complète. C'est-à-dire que ces données sont collectées, transférées et ne sont plus utilisables par ces différentes startups, etc. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont présents. C'est en fait cette problématique-là que je nomme la colonisation par l'IA. C'est parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, les ressources premières, donc les ressources qu'on pourrait dire de naturelles, sont la donnée en première. Donc, si on se laisse exploiter de cette façon-là, où même nos données ne nous appartiennent plus, ben, ça peut être quelque chose de très problématique pour le développement de l'IA dans sa globalité au niveau africain et le développement de ces startups en particulier.
Il y avait eu aussi des mises en garde qui ont été faites dans ce domaine des entreprises qui collectent des données en Afrique en disant il ne faut pas non plus que ça devienne un terrain d'exploitation d'une main-d'œuvre pas chère parce que maintenant l'Inde est devenue trop chère par exemple.
Oui, oui, mais tout à fait. Je pense que de toute façon la réglementation en termes de droit du travail doit être respecté. Toutefois, le fait d'avoir un tel marché, si les conditions de travail sont respectées, peut être une opportunité également pour ces pays-là. Bon, d'abord, ça permet de créer de l'emploi et également d'asseoir une certaine culture de la collecte quoi, de données. Donc, de mieux comprendre que ce qu'on a peut être valorisé et ça peut permettre à d'autres startups locales de faire le même travail pour elle-même, c'est-à-dire pour exploiter quoi, ces données-là et de créer de la valeur avec.
Donc il faut une réglementation au niveau national de chaque pays, mais aussi sans doute supranational, international, voire même quelque chose qui soit un petit peu coercitif pour que ce qui reste encore dans le domaine ou la propriété, en tout cas d'entreprises privées, bénéficie réellement ou soit encadré en tout cas par des lois publiques.
Là, par contre, il faudra faire gaffe. C'est-à-dire que la réglementation, c'est bon, la régulation, c'est bon, mais tout en évitant de brimer l'innovation. Mais par contre, il faudrait que les pays africains puissent se protéger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle vient dans un contexte beaucoup plus global qui est le contexte de la quatrième révolution industrielle. Et donc, avec la quatrième révolution industrielle, l'intelligence artificielle va être couplée avec d'autres types de technologies qui pourraient être des technologies de la nanotechnologie ou de la biotechnologie. Et ceci pourrait peut-être amener certains à vouloir aller dans les pays où il y a moins de réglementation pour faire des essais d'abord avant de passer à l'échelle. Et donc les pays africains feraient gaffe de ne pas être en fait ces zones de non-loi où les populations pourraient servir quoi de cobaye.
Quelles sont les raisons qui vous donnent de l'espoir pour 2024?
Pour 2024, on a l'Union africaine donc, qui va lancer sa stratégie panafricaine pour l'intelligence artificielle. On a un regain d'intérêt par rapport à l'intelligence artificielle mais pour l'Afrique au niveau mondial. Donc cela nous apportera pas mal de ressources financières en fait, pour faire si bien nos travaux de recherche boostaient un peu plus les startups que développer une vraie culture quoi, de l'IA pour booster un peu cette appropriation-là. Donc j'espère aussi qu'au niveau des talents, que de plus en plus d'universités et de centres de formation vont s'orienter en fait vers ces technologies-là pour que l'intelligence artificielle soit quelque chose de maîtrisé par les jeunes Africains.
Seydina Moussa Ndiaye, merci beaucoup.
Vous en prie, merci Samy, bonsoir.
Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. Puisqu'on parle d'innovation et de recherche, il est temps de battre en brèche le cliché qui veut que les femmes ne seraient pas faites pour la science. Comme dans de nombreux autres pays, au Burundi, peu de filles s'orientent vers des études supérieures techniques. Mais il existe des pionnières et parmi elles se trouve Alice Iradukunda. Cette ingénieure dirige aujourd'hui des ouvriers sur des chantiers à Bujumbura. Notre jeune reporter de la série Pas sans elle, Clara Sheila Dushime, l'a rencontrée.
Alice Iradukunda, 31 ans, est ingénieure. Bachelière en génie civil, elle est sortie en 2016 de la faculté des sciences de l'ingénieur à l'université du Burundi. Depuis 2017, Alice dirige différents chantiers de construction de maisons à Bujumbura.
J'ai fait la scientifique à la section. On dit souvent que c'est pour les garçons à cause des mathématiques et de la physique. Après, j'ai choisi de faire la faculté de la science de l'ingénieur qui correspondait à ma passion.
Selon notre culture, une fille ne doit pas monter sur la toiture d'une maison. Cela ne t'a pas découragée?
Au contraire, ça m'a encouragée. J'respecte beaucoup notre culture, mais j'ai toujours une curiosité de savoir. Comme c'est un peu interdit, ça m'incite beaucoup à chercher pourquoi.
Alice fait partie des femmes qui ont réussi à faire carrière dans le métier de leur choix. Mais pour beaucoup, il est encore difficile de sauter le pas. Jeannette Kaneza est la présidente de l'Association des femmes ingénieures, créée il y a 3 ans pour encourager les femmes à briser ces tabous.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager les filles?
La sensibilisation à travers des témoignages. Les jeunes filles du secondaire n'ont pas cette information sur les facultés qui existent à l'université, encore moins l'ingénierie.
À quels défis êtes-vous confrontée?
Cette culture burundaise qui montre que la femme doit aller dans des métiers faciles. On doit avoir des entreprises qui témoignent qu'elles sont capables.
Qu'est-ce que vous dites aux employeurs qui préfèrent plus les garçons que les filles à l'embauche?
Elles sont d'abord intelligentes, capables parce qu'on a été à la même école que ces garçons-là et on a eu les mêmes notes, même plus des fois.
Il ne suffit pas d'augmenter le nombre de filles dans les filières techniques. Il faut aussi qu'elles puissent ensuite trouver du travail. Comme Alice Iradukunda qui s'est imposée dans son domaine malgré les difficultés.
Comment parviens-tu à diriger les hommes au chantier?
C'est pas toujours facile, mais ce qui importe, c'est la capacité, la confiance en soi et le respect envers les ouvriers. Ça fait un peu peur de travailler avec beaucoup d'hommes, mais on est obligé de cacher cette peur pour garder la crédibilité.
Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui sous-estiment encore leur capacité à faire des métiers réservés traditionnellement aux garçons?
Nous aussi, les filles, nous pouvons le faire. Par exemple, là, d'aller essayer au moins. Je suis sûre qu'elles sont capables, elles aussi.
Avec l'engagement des filles et femmes, le nombre de femmes ingénieures augmente progressivement. Les préjugés disparaissent aussi bien dans les écoles que dans la vie professionnelle. Claire Giladouchime à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Un reportage tiré de notre série Pas sans elle que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube DW77% dont on parlait tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi désormais nous suivre DW Afrique sur TikTok. Alors allez y jeter un œil, vous y trouverez d'autres reels à destination des jeunes. L'heure tourne, la fin de notre émission approche, mais avant de nous quitter, voici encore quelques vœux et des raisons de garder espoir pour l'Afrique en 2024. Ici, vous entendrez un Tchadien, Nodjegoto Charbonnel, lauréat 2022 du prix Rafto pour les droits humains. Il préside aussi l'association Jeunesse pour la paix et la non-violence Anjamena. À nouveau, l'eurodéputée allemande Pierrette Herzberger Fofana et François Paluku Kaputu de la Caritas à Béni dans le Nord Kivu. Et enfin, le Burkinabé Cyprien Ouedraogo.
Moi, pour l'avenir, je suis toujours optimiste. Donc, dans la lutte que je mène, je crois toujours à un avenir meilleur. En ce qui concerne l'Afrique, je suis en train de voir que l'Afrique est en train de se réveiller. Et que ce réveil, il faut que ça soit positif pour le développement de l'Afrique. Donc mon souhait pour l'année 2024 pour l'Afrique, il faut une prise de conscience générale de la jeunesse africaine pour s'investir pour le développement de ce continent. Donc pour l'Afrique, je souhaite beaucoup de progrès, développement, paix, et aussi entente entre les Africains.
Et c'est ça qui me donne l'espoir, c'est de savoir que nous avons tout un continent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui sont prêts, ils croient en leur continent, que cette richesse-là, qu'ils puissent aussi s'en servir et faire du continent le meilleur continent du monde, peut-être le plus beau continent pour ceux qui vivent au pays.
L'espoir aussi est que les acteurs sociaux à travers la société civile mettent des actions de surveillance de tous ceux-là qui sont au niveau de la direction du pays ou de certains pays pour que les choses aillent encore mieux tant soit peu.
S'il faut exprimer mes voeux pour l'Afrique et les Africains pour l'année 2024, je dirais simplement ceci. Qu'en Afrique et dans la vie des Africains, la sagesse et la raison l'emportent sur les émotions et les passions. C'est peut-être dans cette posture de sagesse africaine et de raison universelle que l'Afrique et les Africains pourront construire tranquillement le présent et envisager sereinement l'avenir.
Cette fois, cette émission est bien terminée. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. Rendez-vous à 17h TU pour la suite de nos programmes avec un prochain point sur l'actualité de ce 1er janvier. Bonne fin de journée à tous en cette nouvelle année.